Figaro Radio. Le Buzz TV. Nicolas Voller et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Mathilde ?
Ça va, super.
En accueillant dans ce studio une journaliste multicasquette, mais surtout multitalent, passée par BFM, France 5, Europe 1. C'est sur Canal+, qu'elle a posé ses valises depuis presque 3 ans désormais. Et si vous êtes encore en train de scruter son visage pour chercher l'émission qu'elle présente, je vous conseille plutôt de fermer les yeux et de vous laisser guider par sa voix. Bonjour Nathalie Lévy.
Bonjour Nicolas, bonjour Mathilde.
On est ravis de vous avoir, merci hein, sur ce plateau, merci d'avoir joué le jeu avec nous. Ça vous a fait quoi de vous retrouver à la place de vos invités dans un aparté d'ailleurs.
Ok, j'ai dit que c'était un enchantement, mais c'était aussi très déroutant, j'avoue.
Bizarre, non ?
C'est curieux parce qu'on ne s'est pas regardé, on est surpris, c'est assez malaisant, mais à la fois c'est très agréable de l'avoir vécu. Merci.
Bon écoutez, on est ravis en tout cas. Alors vous êtes évidemment la présentatrice de l'émission culte, hein, on l'appelle comme ça maintenant en aparté. Mais surtout, mardi, vous allez lancer un nouveau programme sur Canal+, intitulé « Inoubliable, nos chers grands-parents ». Votre premier invité sera d'ailleurs le réalisateur français oscarisé, Michel Hazanavicius. Et vous serez à ses côtés cette fois-ci, en chair et en os. Ouais. Nathalie, ce sera bien vous. Ma première question va être assez simple. Est-ce que vous en aviez assez d'être simplement une voix sur Canal+ ?
Alors non, ce n'est pas du tout mon sujet. Parce que j'ai plein de projets et que je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais me retrouver face cam à un moment. Mais ce n'est pas ce après quoi je cours. En revanche, je pense que clairement, j'ai une forme d'adhésion. Je ne sais pas si c'est ma chair, mon encre, mais en tout cas, j'ai clairement une appétence pour le grand âge, pour le sujet de la transmission.
On va en parler, bien sûr. Ouais.
Et donc, voilà, j'avais envie de prolonger ce que j'avais déjà fait dans un travail littéraire. Et voilà, ça s'est dessiné comme ça.
Et cette fois-ci, vous allez vous montrer comme ça. Votre boulangerie va enfin vous reconnaître. On va de chez vous, on va poursuivre cet entretien. Dans quelques instants, vous allez tout savoir de cette nouvelle émission de Nathalie Lévy consacrée aux grands-parents. On reviendra aussi sur le succès d'un aparté. Ce sera après les news médias de Mathilde Seffer. On démarre ces news médias, Mathilde, avec le décès hier que nous avons appris de Frédéric Mitterrand.
Oui, alors l'ancien ministre de la Culture et animateur télé s'est éteint à l'âge de 76 ans. Il luttait depuis de longs mois contre la maladie. Sa disparition a bouleversé tant la classe politique que le monde télévisuel, à commencer par Stéphane Bern, qui a appris sa mort hier soir en direct dans l'émission « C'est à vous » d'Anne-Elisabeth Lemoine. On suivit une pluie d'hommages en passant par Pascal Pro, Marc-Olivier Fogiel, Rutel Krief ou encore Cyril Hanouna.
Absolument, ouais. C'était poignant, hein, Stéphane Bern qui était très ému. Vous le connaissiez, vous l'avez déjà rencontré,
Frédéric Mitterrand, et je suis très ému également parce que Frédéric Mitterrand, on a passé du temps ensemble, chez lui, au milieu de ses bouquins. Et pour tout vous dire, il fallait les escalader, ces bouquins. Vraiment, il y avait un dédale comme ça pour arriver jusqu'à un siège qui lui-même était, j'allais dire, investi d'une pile de livres, d'une pyramide de livres. Donc, pour pouvoir poser son séant, il fallait faire de la place. Mais donc, évidemment,
son érudition. C'était pour une interview, c'était personnel, des discussions
C'était déjà pour Henri. Sa grand-mère, qu'il m'a raconté en long, en large, avec beaucoup de poésie, de fantaisie aussi. C'était ça. C'était évidemment un conteur hors pair et quelqu'un de très tendre et de très fidèle aussi.
Absolument. Et je pense qu'il a beaucoup manqué au monde de la culture, en tout cas. On poursuit ces news médias avec la convocation qu'on a appris hier de Yann Barthès à l'Assemblée nationale.
Oui, et alors de la même manière que les chaînes C8 et CNews, par l'intermédiaire de Cyril Hanouna et Pascal Praud, Yann Barthès et l'équipe de Quotidien devront se plier à une audition de la commission d'enquête parlementaire. Cette audition a été demandée par le Rassemblement national que le talk refuserait d'inviter. Et cette convocation a semblé ravir Pascal Praud, qui l'a ironisé dans son émission
L'heure des pros. Yann Barthès.
Justement, alors je cite, c'est très ennuyeux pour mon excellente amie Yann Barthès, parce que là, il n'aura pas l'oreillette et le prompteur. Il a poursuivi en le comparant au célèbre ventriloque. Je cite, d'habitude, c'est plus Jeff Panaclock.
Bon, on a hâte de voir ça, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Cette commission, ça fait drôle de voir des animateurs télé passer devant des députés, des sénateurs, pour justifier, effectivement, le pluralisme, leurs plateaux, leurs émissions. Vous regardez ça de loin avec un œil amusé, inquiet.
Ouais, je regarde ça de loin. Je suis plus sur une chaîne info, donc je suis très contente aussi de ne pas avoir accès ou cette obligation, parce qu'il y a quand même une passerelle. Je regarde ce qui se dit. J'entends aussi... cette espèce de procès en illégitimité qui peut y avoir parfois pour certaines chaînes et certains animateurs, une forme d'acharnement, etc. Comme moi, ma seule religion, c'est la liberté d'expression. J'avance avec cette doctrine-là et je reprendrai une phrase qui a été prêtée à Voltaire. Je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que vous dites ou ce que vous faites, mais je me battrai pour
pour que vous puissiez l'exprimer.
Viviez, mmh. Voilà.
Effectivement. Voilà. Ça vous semble dangereux qu'on essaie de ficher un peu comme ça tous les gens qui sont en plateau, c'est compliqué. Alors, pour
oui,
les politiques,
oui.
On le sait, mais
pour les autres, c'est... Mais je trouve que c'est la couleur de cette société, enfin, de cette bascule qu'on est en train d'opérer, ce puritanisme, cette société de la pudibonderie. À un moment, on ne peut pas classer tout noir et blanc, ça ne peut pas être manichéen à tous les niveaux, au niveau des médias, au niveau des hommes, des femmes, des choix sociétaux, des choix de vie, des choix de genre, enfin, que sais-je. Et voilà, je crains un peu ça, cette quête de la pureté à tout prix. Je sais pas trop où on va. Moi, je trouve qu'il y a une perte de repères. En tout cas, c'est un moment dans notre cycle aujourd'hui, un moment de bascule.
Ouais. Important. Et on continuera de suivre ça, évidemment, de près. On termine avec le chiffre du jour, 3,84. Aujourd'hui, vous êtes
oui.
Précise, hein, Mathilde.
Oui, alors, c'est parce que c'est en millions le nombre de téléspectateurs à s'être réunis devant TF1 pour regarder les aventures d'Arnaud Ducré et Manon Azem.
Bah oui.
La nouvelle série Mercato, tournée à Marseille, est en légère baisse par rapport à sa première la semaine dernière, qui avait convaincu 4,72 millions, donc près d'un million de plus. Loin derrière la une, ce sont M6 et France 3 qui se sont partagés les marges du podium avec Pékin Express et la rediffusion du juste prix de la trahison avec Mimi Mathy.
Nathalie, vous êtes en quotidienne, évidemment. Est-ce que les audiences, c'est un truc où chaque matin vous allez regarder? Ou est-ce que sur une chaîne comme Canal, c'est pas forcément le plus important? On regarde aussi les replays, ce qu'il y a sur MyCanal, le buzz que ça fait sur les réseaux.
Bah, vous avez fait la question et la réponse, merci.
Ouais, non, mais c'est ça, mais vous avez quand même une audience tous les matins pour en aparté.
Oui, mais
elle veut pas dire
c'est vrai que c'est pas un marqueur fondamental, c'est pas cardinal chez nous, ce chiffre-là. Ce qui compte, c'est l'intérêt qu'ont les invités à venir. Et tout le cinéma français, les artistes, les sportifs, aujourd'hui, ont vraiment très envie de venir nous voir. Et de venir converser avec moi, et ça, c'est, je crois que c'est, je suis hyper, j'ai beaucoup de gratitude parce que ça dit quelque chose vraiment de ce qu'on fait, de la manière dont on le fait. Moi, je travaille comme une orfèvre avec mes équipes, Nicolas Torjman, entre autres, et la production qui veille à chaque objet, à chaque disque, à chaque film. Donc le travail paye parce qu'aujourd'hui tous les artistes viennent nous revoir, y compris depuis les États-Unis, enfin outre-Atlantique. On commence à avoir vraiment aussi une belle brochette de célébrités qui viennent se confier.
Absolument, ça, on va en parler. Vous êtes même copié, comme on l'a vu tout à l'heure au Buzz TV. Je vous l'ai dit, Nathalie, vous êtes la présentatrice de la célèbre émission En Aparté. Tous les soirs, on rappelle à 20h30 sur Canal+. On va en reparler un peu dans la seconde partie du Buzz. Mais l'actualité chaude, brûlante, c'est cette émission diffusée mardi soir sur Canal à 22h50. Hein, ce sera juste après le film.
Le film, oui.
Inoubliable, Nos chers parents, c'est son titre.
Et chers grands-parents.
Nos chers grands-parents, pardon. C'est vrai, en plus, c'est écrit Nos chers grands-parents. Je ne sais plus lire, c'est vendredi. Le réalisateur Michel Hazanavicius vous a fait l'honneur d'être le premier invité. Et en gros, à partir d'une sélection d'images, d'archives personnelles, historiques, il va à peu près, avec vous, reconstituer peu à peu son histoire, le récit de son histoire familiale et surtout ce lien incroyable qui l'unit à ses grands-parents. Racontez-nous un petit peu comment cette émission va s'articuler. Et puis juste après, on parlera de votre engagement, évidemment, fort pour le grand âge.
Oui, écoutez, moi j'avais commencé, donc je trouvais que ça avait du sens de continuer en images, parce qu'évidemment il se passe autre chose, parce qu'on peut montrer les visages de ces anciens, et évidemment les oublier, c'est les enterrer deux fois, c'est une phrase qui m'accompagne beaucoup. Et je savais... Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit bien les artistes sur leurs Instagram ou que sais-je, montrer une photo des grands-parents, que ce soit Clara Luciani, évidemment Juliette Armanet qui a beaucoup parlé, montré aussi sa grand-mère, mais notre génération, Sylvie Vartan, Ahmed Silla, enfin bref... tous azimuts, on les voit louer leurs grands-parents et cet héritage-là. Et je trouvais que ça avait du sens dans cette société, encore une fois, dont les valeurs aujourd'hui sont un peu bousculées, de revenir peut-être à cette essence-là, de revenir un peu à ces passeurs de vie, à ces éclaireurs de vie qui ont une expérience dont on ne peut que se nourrir. Et puis ces deux guerres, c'est 14-18, c'est 39-45, c'est une époque dont les jeunes, aujourd'hui, peut-être parfois, n'ont même pas l'ombre de l'info, il croit que c'est une légende.
Ouais.
Donc je trouvais que c'était aussi intéressant de raconter ça, la petite histoire, la grande histoire, mais aussi un territoire, un terroir, une région, un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être, ce qui ne se dit pas toujours à l'école ou avec ses propres parents, mais ce qu'on peut avoir avec les grands-parents.
Et alors, pourquoi Michel Hazanavicius, son histoire vous a interpellé?
Alors, Michel Hazanavicius, pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait un lien très fort avec ses grands-parents, et moi, j'avais à cœur, dans ce programme, quand on l'a façonné, d'aller vraiment chercher des individus, des artistes qui n'étaient pas dans la posture ou dans quelque chose de l'ordre de la communication pour raconter ses grands-parents. Je voulais que ce soit vraiment très sincère, que ce soit organique. Et je savais que c'était organique pour Léa Drucker, par exemple, pour Patrick Bruel, pour Valérie Bonneton.
Des grands-parents qui viennent de loin aussi, de la Pologne, de la Lituanie.
Exactement.
Il y a une vraie histoire.
Il y a une histoire. Et là, il y a quatre grands-parents chez Michel Hazanavicius. Donc c'était très compliqué d'ailleurs pour moi parce qu'il fallait raconter les quatre. Et puis, oui, il y a ces différents territoires. Et puis, il y a la manière dont l'intérêt pour le cinéma est né auprès d'eux, quand son grand-père l'emmenait voir des films au cinéma Max Linder à Paris sur les grands boulevards. Il y a aussi les caractéristiques d'un grand-père très romanesque, très cinématographique, là aussi, qui l'a nourri. Donc, on voit bien qu'il est imprégné très clairement de ses grands-parents.
Alors, mais je me posais la question, Nathalie, il faut quand même que l'invité ait des archives photos, des choses à proposer. Parce que,
pour
un invité qui est proche de ses grands-parents et qui vous dit, mais j'ai rien,
je suis obligée de passer mon tour, parce que, oui, il faut pouvoir l'illustrer.
Il faut avoir un minimum de documents en archives.
Et alors, il y aura quatre émissions en tout. Quels seront les autres invités?
Justement, on parlait de photos. Ibrahim Mahalouf m'a fait aussi le grand plaisir de venir nous rejoindre. Et Ibrahim Mahalouf...
Il est au théâtre actuellement.
Absolument. Et puis, il est autour du monde tout le temps parce que, évidemment, c'est un trompettiste international. Et c'est très intéressant avec Ibrahim parce que, bon, d'abord, c'est le Liban, ses racines, le pays du cèdre. Et puis, il a connu sa grand-mère jusqu'à un âge adulte puisqu'elle a disparu en 2021 à 99 ans. Il a pu vivre avec elle les dernières années de sa vie. Et donc, il a plein de photos dans son téléphone. Là, c'est encore une autre génération, donc il l'a filmé souvent, il l'a enregistré, il y a des vidéos dans son portable, etc. Donc j'ai une multitude, effectivement, là, d'images et de clichés qui sont absolument insensés et honnêtement qui donnent beaucoup, beaucoup de frissons. Valérie Bonneton, qui a connu son grand-père uniquement jusqu'à l'âge de 12 ans, mais qui avait aussi de très belles images à nous fournir. Et puis Patrick Bruel, qui a eu une relation très forte avec ses grands-parents, et Élie, particulièrement son grand-père, qui nous a aussi livré de très très belles photos avec des repas de famille, avec le football, parce qu'ils ont été très liés aussi par le foot, etc.
Alors c'est pas un hasard, évidemment, hein, si vous vous intéressez aux grands-parents. 2001, vous aviez publié un livre, Courage au cœur et sac au dos, dans lequel vous racontiez la relation très forte qui vous liait avec votre grand-mère. Et puis l'an dernier, Chers grands-parents, là c'était un exercice différent, il y avait des personnalités qui se livraient à leur tour sur le lien avec leurs aïeux. Hein. Vous aviez effectivement Sylvie Vartan, vous l'avez dit, Michel Drucker, Julie Gayet, Patrick Bruel déjà, Michel Onfray, beaucoup d'autres. Cette question des grands-parents et plus généralement, on va dire, hein, des personnes âgées, c'est ancré au fond de vous, Nathalie, pourquoi?
Je crois que j'ai un problème avec l'âgisme, ou un problème avec le jeunisme, allez savoir.
Ou l'inverse, oui, ça peut être ça.
Non, mais je crois que dans une société où on met en avant systématiquement le futur, l'intelligence artificielle, les images en permanence, et puis surtout où on fait de Tartempion une icône le lundi, et puis où il est lynché en place publique le mardi, j'ai un peu de mal, je pense. Alors, je sais pas, j'ai peut-être un truc très désuet, mais oui, j'ai un peu de mal. Donc, et puis, bien sûr, j'ai travaillé sur la question des EHPAD. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt, évidemment, le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Ouais. J'ai travaillé beaucoup sur ce sujet et j'ose espérer. Il y a la loi sur la fin de vie aussi qui sera au Parlement en mai. J'ose espérer qu'on est en train de changer de paradigme et de regard sur les anciens. De toute façon, la société est vieillissante. Ça, c'est une fatalité. Donc, il va falloir à un moment les considérer. C'est vieux.
C'est ce qu'on appelle les seniors.
Ouais, moi, j'aime bien dire les vieux. Ça aussi. Faut dire les choses.
Justement, alors que vous aimeriez que le rôle d'aidant familial soit davantage reconnu et considéré. C'est ça.
Oui, ils sont invisibles, les aidants. Oui. Aujourd'hui, ils sont invisibles, c'est souvent des femmes. Il y a souvent une distance à parcourir quand on est femme. Quand on est une femme active avec des enfants, il faut aller au domicile de l'aider. C'est franchement la quadrature du cercle. Je l'ai vécu, mais moi je l'ai vécu avec beaucoup de soutien, puisqu'on a été une ronde de femmes. Ma maman, ma tante a s'occupé de ma grand-mère jusqu'à 99 ans et demi. C'était hyper privilégié de pouvoir être trois et de s'organiser comme ça. Moi, je passais mes matinées chez elle, maman et ma tante se relayaient l'après-midi. Mais ce que j'ai tendance à dire, c'est que, compte tenu du vieillissement de la population, c'est un jour aidant, un jour aidé. si on a la chance de vivre et d'avoir nos parents le plus longtemps possible, on y passera d'une manière ou d'une autre dans ce rôle-là, oui, dans cette double casquette-là. Et c'est psychologiquement, physiquement, une charge. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ouais. Donc, il faut les mettre en exergue. Ça veut dire que c'est une rémunération différente, ça veut dire que c'est une considération différente, ça veut dire que c'est un encadrement de ces professions, souvent, effectivement, des femmes hein, qui le sont, voilà, véritablement avec une dignité. Voilà, ce mot-là, il n'existe pas tellement dans ce couloir-là,
d'autant plus que vous avez accompagné votre grand-mère hein, jusqu'au bout. C'était autant pour la réconforter, elle, que vous réconfortez vous, Nathalie. Je pose une question à Nathalie Lévy, là.
Ouais. Façon ah oui, Nicolas. Ouais, oui, oui, vous avez pas, oui, vous n'avez pas tort. Je pense que...
Il y avait les deux.
Oui, il y avait les deux. Ma mamie, elle a été là dès mon premier souffle. Et je pense que... Elle venait combler quelque chose chez moi. J'ai des parents extrêmement aimants dont je suis très proche, un petit frère aussi dont je suis très proche. Donc je ne peux pas dire que j'ai manqué d'amour ou d'attention, mais je ne sais pas, on s'est choisi, on s'est reconnu peut-être. Je fais souvent référence à Gisèle Halimi qui a écrit ce livre « Histoire d'une passion » parce qu'elle a été vraiment, elle a eu un coup de foudre pour sa petite fille, et mutuelle d'ailleurs, et je crois que c'était ça, c'était de cet ordre-là. Ouais, ma grand-mère a été veuve à 29 ans, elle n'a jamais refait sa vie. Elle m'a peut-être aussi choisi quelque part pour venir combler quelque chose.
Qu'elle n'avait plus, on se souvient de votre émotion dans l'émission de Faustine Bollard. Elle vous avait fait une surprise, elle avait été filmée, et ça vous avait beaucoup, beaucoup surpris. Vous étiez sans voix, c'est la première fois que vous entendez sans voix.
Oui, c'était difficile à la fois de savoir que ma mamie avait pu être vue comme ça dans son intimité. C'est pas quelque chose qui me... Il me plaît a priori, et en même temps j'étais contente de la voir et de la montrer parce que elle voilà, elle
mettait un visage sur la personne dont vous parlez depuis longtemps.
Exactement.
Et alors parlons un peu d'en aparté. On a eu un avant-goût au début de l'émission, ce programme, ce concept même, puisque c'en est vraiment un. Vous êtes tombé dessus en 2021 lorsque Canal+ décide de relancer l'émission après 15 ans d'arrêt. Vous avez tout de suite dit oui.
Ah ben c'est même moi qui suis allée les solliciter.
C'est vous.
J'ai aucune pudeur sur ce sujet, aucun tabou.
C'était votre rêve.
J'allais dire, j'ai pris mon CV et je l'ai posté. Non, parce que ça s'est pas fait avec le papier, ça s'est fait avec des messages, des mails, etc. Mmh. Mais j'ai candidaté, ni plus ni moins, une trajectoire, enfin un trajet, tout ce qu'il y a de plus banal. Mmh. Voilà, je connaissais personne dans ce groupe. Je venais de BFM, je venais de l'info. A priori, il y avait aucune raison pour qu'on se pose sur mon cas. Mais j'avais écrit ce livre, effectivement, qui ouvrait peut-être autre chose, qui montrait peut-être autre chose de moi, peut-être, qui permettait de montrer une forme d'altérité qui est, j'espère, constitutive de ma personnalité, le sens des autres, j'espère. Et voilà, j'ai passé d'innombrables entretiens et puis voilà, comme ça s'est fait.
Alors, pendant 7 ans, 8 ans, évidemment, cette émission était marquée par la Pascale Clark, par la voix de Pascale Clark, succéder à la voix de Pascale Clark et que c'est quelque chose qui fait un peu peur au début.
Oui, bien sûr, c'est très impressionnant. Moi, je regardais religieusement cette émission. J'ai été très marquée par à la fois le talent, la précision de Pascale Clark, vraiment sa patte. Ouais, ouais. Et puis, y a un moment, il faut savoir prendre... se décaler, en fait. Moi, je me suis décalée, simplement. J'ai pas re-regardé, j'ai pas passé du temps à aller chercher comment je pouvais me distinguer ou pas. Je me suis simplement décalée. J'ai ma personnalité, j'ai ma voix, je viens d'un autre chemin aussi. Et puis, assez rapidement, je crois que je me suis trouvée.
Je vous confirme.
Justement, beaucoup de vos invités disent que cette émission, c'est leur émission préférée, vraiment. Pourquoi, à votre avis ?
Parce que je pense que, clairement...
Et c'est rare que des gens, là, on ne dit pas notre émission, mais la vôtre, ils le disent assez facilement.
C'est quand même fascinant. Enfin, je pense que vous, Mathilde, Nicolas, c'est quand même fascinant de se dire qu'on a pu se plonger. Des journalistes se sont plongés dans leur vie... Et vont rejouer tout ça dans un décorum, une arène extrêmement chatoyante, etc. C'est quand même grisant de se dire qu'on a plongé, encore une fois, on s'est penché sur vos goûts, vos aspérités, vos souvenirs, etc.
Les surprendre.
Et puis tout ça dans la plus grande bienveillance, parce que moi je fais vraiment la différence entre bienveillance et mièvrerie. Je pense qu'on manque clairement de bienveillance aujourd'hui dans cette société. Je rends hommage à Michel Drucker que je j'affectionne particulièrement, qui a toujours fait de la télé avec infiniment de talent, de travail et de bienveillance. Et voilà.
Il est toujours là.
Et la bienveillance est illimitée, c'est un puissant fond, mais allons-y.
Alors, c'est la bienveillance que vous prodiguez dans cette émission, mais vous, Nathalie, qu'est-ce que vous cherchez ? Est-ce que vous cherchez l'intimité ? Vous cherchez les révélations ? Vous cherchez l'émotion, le bruit, la fureur, je ne sais pas, je vous...
Non,
ou tout,
je crois que c'est un peu tout, effectivement, parce que il y a... Je cherche à contourner la posture. Si un invité arrive hyper blindé, hyper verrouillé, je sais que ça ne fera pas une bonne émission. Si je n'arrive pas à faire tomber cette cuirasse,
vous le sentez,
je suis battue.
Ça, ouais.
Voilà, moi, ce que je cherche, c'est aller sur leur brouillon, leur rature, leurs hésitations... J'ai pas envie que ce soit malaisant pour eux. Déjà, la reine est déjà suffisamment déroutante, donc il s'agit pas que ce soit malaisant. Mais voilà, j'ai envie de les faire se raconter dans quelque chose de profond, dans leurs eaux profondes en fait.
Alors vous avez dit aimer d'être dérangé, voire bousculé par des invités, c'est vrai ?
J'ai dit moi être.
Oui.
Pardon, excusez-moi, j'étais pas sûre de. Oui, bah, évidemment, quand on est stupéfait par une réponse, quand il y a même un mouvement, Benoît Poulvorde par exemple, qui va partir avant la fin de l'émission parce qu'il a une envie pressante ou des choses comme ça.
Mathieu Kassovitz qui a sorti beaucoup de gros mots, vous a senti.
Exactement, bah, bien sûr,
dire.
Mais c'est lui.
Bien sûr,
voilà,
ouais. Évidemment.
Il est vif. Ou Léa Drucker qui pleure immédiatement quand elle voit la baie vitrée qu'on lui propose. Et je ne m'attendais pas effectivement à cette réaction comme ça épidermique immédiate. Bah, c'est bouleversant, c'est saisissant. D'emblée, ça nous met dans autre chose. Et oui, c'est sûr que c'est plaisant, ouais.
Alors la reconnaissance, évidemment, on en a parlé, de ces stars qui adorent votre émission, ça va maintenant à l'international, puisque vous en avez, Jeff Goldblum, Eva Longoria, Naomi Campbell, Josh Brolin, vous en visez d'autres, comment ça se passe ? Vous essayez de les faire venir ou vous profitez d'un passage éventuellement à Paris pour
glisser
possibilité de le faire ? On sait qu'ils font beaucoup de talk shows, évidemment, d'interviews, c'est un hostile.
Oui, oui, on essaye, évidemment, on travaille avec les agents américains, j'ai une équipe de programmateurs absolument incroyable qui, effectivement, propose l'émission, raconte ce format qui est absolument pour eux étonnant, singulier. Donc il y a une curiosité quand même. C'est vrai que Jeff Goldblum, qui présente lui-même une émission aux États-Unis sur l'origine des choses, nous disait. Enfin, on s'est même demandé s'il n'allait pas proposer le format là-bas, parce qu'il était tellement saisi, il trouvait ça tellement, effectivement, étonnant, différenciant, etc., que, voilà. Donc, il y a une curiosité, effectivement, des internationaux pour ce format. Et
un ou deux autres noms, là, bientôt, prochainement, vous pouvez nous donner, ou pas, sur qui vous travaillez ?
Non, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, vous savez. Ils ont énormément d'entourage, ils ont un entourage dingue, donc ça passe à la fois par le distributeur du film, évidemment, ça passe par l'agent, ça passe par le publiciste, enfin, voilà, il y a un cortège autour d'eux.
Et alors, qui serait votre invité de rêve ? Si vous pouviez
celui ou celle que vous n'avez pas eu encore.
Le ou la, c'est compliqué au singulier, mais j'adorerais recevoir Raphaël Nadal, j'adorerais recevoir Catherine Deneuve, j'adorerais recevoir Sophie Marceau dans les internationaux. Moi, j'ai été évidemment... je sais pas, Dustin Hoffman, Meryl Streep, mais Timothée Chalamet, Ryan Gosling, Bradley Cooper.
La liste
est infinie.
Enfin, ouais.
Vous voyez, en fait, il y a une multitude de possibilités.
Absolument. Moi, ce sera personnellement Beyoncé, mais on en parlera
aussi,
évidemment
aussi,
après.
Bien sûr.
C'est l'heure de votre dernière rubrique. Au suivant. Nous recevions sur ce plateau la comédienne Hélène Cezaré, qui a succédé à Claudia Tagbo dans Le crime lui va si bien, sur France 2. Hélène Cezaré est fan d'En aparté, Nathalie. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après.
Je la connais de par son émission En aparté, que j'adore. Je disais tout à l'heure que je ne regardais pas beaucoup la télé, mais c'est l'émission que je regarde. Donc bravo déjà pour cette émission. Et ma question, c'est aimez-vous tous les invités que vous amenez sur votre plateau, ou vous sont-ils parfois imposés ? Voilà, c'est la question que je vous pose aujourd'hui.
Intéressant,
ouais,
la question d'ailleurs. Ouais.
Ouais. Non, je ne les aime pas tous.
Non.
ce serait mentir, vous n'aimez pas tous les invités là, qui s'installent ici sur ce site. Non, on ne peut pas aimer tout le monde. En revanche, je pense que j'ai de la curiosité. Je pense qu'on n'est pas journaliste si on n'est pas curieux, de toute façon. Et puis, je voulais être détective privé, gamine, donc vous imaginez bien. Donc, j'ai une grande curiosité. Quand je n'aime pas au départ, j'aime bien l'idée d'être... d'arriver à la fin et de me dire en fait putain je me suis plantée. Je trouve que voilà c'est un chemin intéressant. Il est arrivé que je reste sur mes positions, que je ne sois pas séduite du tout. Et c'est arrivé très sur plus de 300 émissions, je compte même plus. Oui, ça m'est arrivé deux fois, je pense. Mais je ne vous dirai pas qui.
Merci Nathalie Lévy. Je rappelle que vous serez aux commandes d'une toute nouvelle émission mardi soir, inoubliable, Nos chers grands-parents. Ce sera sûr qu'il y a plus de 20h05 quand on ne rate pas cette émission.
Merci.
Si vous la ratez, vous avez MyCanal, évidemment, pour aller la revoir. Ce sera avec Michel Hazanavicius, son premier invité. Et en aparté, c'est tous les soirs à 20h30 sur Canal. Portez-vous bien et merci encore de votre invitation.